13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Beurre FM à votre santé, non c'est AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue. Vous le savez, le vendredi, vous êtes le docteur de labo qui répond à vos questions en deuxième partie d'émission. Notez que le site de la radio de Beurre FM change, donc vous avez toutes les informations sur notre nouveau site. Vous allez voir, il est tout beau, beurrefm.net. Et la chaîne YouTube également de Beurre FM, dans laquelle vous pouvez voir des émissions, des extraits d'émissions de la radio qui ont été filmées et des extraits d'émissions à votre santé, si vous le souhaitez. Docteur Delabo, comment allez-vous?
Bien, Philippe, bien, bien. Je me suis beaucoup amusé à t'écouter pour les infos, les demandes, les ventes, les achats.
Les petites annonces, docteur
Delabo. Les petites annonces, oui, mais ce que je veux, c'est situer les petites annonces. Ce sont des annonces sympas, c'est gentil. Beaucoup de gens charmants.
C'est bien de parler avec les gens, en fait. C'est bien de parler avec les gens, en fait.
Oui, oui, bah c'est agréable, c'est très convivial, c'est sympa comme tout.
Bon, heureusement qu'on n'a pas des gens comme vous qui appellent, mais sinon c'est bien.
Comment ça va, docteur? Ça serait moi qui appellerais, tu serais les larmes aux yeux.
Ouais, c'est ça. Comment ça va, docteur Delabo? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine?
C'est un peu compliqué en ce moment.
C'est compliqué.
C'est très compliqué.
Mais avec vous, c'est toujours un peu compliqué quand même.
C'est un peu compliqué en ce moment, c'est un peu dur.
Bon.
C'est un peu difficile. Alors, je fais la bise à toutes mes collaboratrices et à mon excellente associé.
Parce que vous êtes de mauvais poils, c'est ça?
Hein?
Vous les embêtez un peu?
Non, je les embête pas du tout, mais on a un petit peu de soucis financiers tous. Alors, on est tous unis.
Bon. Ah oui, si vous avez des soucis de sous.
Ah, des soucis de pognon tous. Tous ensemble. C'est bien comme ça. Y a pas de jaloux.
Ah ben non, voilà, comme ça passe
tous,
ensemble.
On est tous dans la merde.
On va faire un de labo de ton, tiens, moi je dis. Allez.
Ça m'arrangerait bien, tu vois.
Lundi, docteur de labo, on est sur votre semaine santé, des aliments nocifs pour l'intestin.
Ah oui, c'est le genre de truc où on raconte un peu tout et n'importe quoi. Un médecin nous explique le plus sérieusement du monde que manger du pain, des biscottes, des gâteaux, des chips, de la mayonnaise, des fruits secs, des cacahuètes, des chewing-gums, de l'emmental, du chou et boire du lait de vache ou du jus de fruits industriels est mauvais pour l'intestin. Bon, évidemment, si on mange que ça ou si on en mange trop,
si on mange
ça
en
va
même
faire
temps,
des dégâts.
Oui.
Ah, forcément. Mais notre gentil généraliste oublie de parler des choses les plus dangereuses, c'est-à-dire les boissons alcoolisées, le piment, les poivres, les navets, les crônes et autres produits irritants ou gazéifiants. Donc, si on l'écoute, on mangera plus grand-chose et ce ne sera pas forcément marrant de se mettre à table. Rassurez-vous, essayez tout simplement de manger raisonnablement et de vous faire plaisir sans exagérer. Tout ira bien, bien entendu, surtout si vous mangez chrono.
Alors, mardi, et ça va vous intéresser, un nouveau traitement contre l'obésité.
Une découverte génétique permettrait de mettre au point un nouveau traitement contre l'obésité. Quoi qu'on puisse en dire, le problème des obèses est qu'ils mangent tout simplement de travers les uns et les autres et que comme ils mangent de plus en plus de travers, ils mangent de plus en plus et ils grossissent de plus en plus. Alors pourquoi chercher à tout prix à vous médicaliser quand vous êtes beaucoup trop gros alors qu'il suffit tout simplement de manger normalement en suivant un bon programme de chrononutrition? Tu sais Philippe que j'ai fait perdre plus de 100 kilos à une petite dame une fois, sans la martyriser, sans qu'elle ait un pli après, sans
alors,
qu'on ait
si
besoin
elle
de
fait 100
l'opérer.
Kilos, c'est pas une petite dame, docteur Delabo.
170, c'est peut-être.
Ah oui.
Ouais.
C'est une grosse dame.
Ah ben moi je suis gentil, oui. Je ne dis pas une grosse dame, c'est une petite dame.
Petite dame à 170 kilos, si elle vous tombe dessus. Elle va...
Évidemment, dans ce cas, adieu les bénéfices monstrueux de l'industrie pharmaceutique. Ça expliquerait d'ailleurs, à mon avis, pourquoi j'ai beaucoup de mal à me faire entendre.
Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui sont obèses le sont parce qu'ils mangent mal, ou alors il y a quand même des prédispositions génétiques?
Non. Non, parce que s'il y avait des dispositions génétiques, il y a belle lurette qu'on aurait trouvé, qu'on aurait permis à ces gens-là de
ce
mentir.
N'est que dû à l'alimentation.
Écoute, Philippe, j'ai fait maigrir des gens qui pesaient 170 ou 150 kilos. Je leur ai fait perdre tous les kilos qu'ils devaient perdre. La seule chose, c'est que ces gens-là m'ont écouté, qu'ils ont fait ce que je disais, qu'ils ont arrêté de manger n'importe comment, en croyant qu'ils mangeaient pas beaucoup d'ailleurs. Le pire de tout, ce sont les grignoteurs. Ils mangent jamais beaucoup à la fois, mais ils mangent tout le temps. Syndrome du raton laveur, tu vois. Je mange pas à table, mais je grignote.
Il grignote. Mercredi, des mauvaises habitudes qui empêchent de bien digérer.
Pour certaines, oui. Oui, boire trop de boissons gazeuses, manger une trop grosse quantité de nourriture, boire de l'alcool en même temps qu'on mange, prendre des anti-inflammatoires un peu n'importe quand, oui, ça, dans ces cas-là, ça peut provoquer des catastrophes. Pour d'autres, franchement, j'ai un doute, voire même plus qu'un doute, mâcher vite, fumer après le repas et boire du café, ça, j'ai fait ça dans ma vie jusque pendant très longtemps, j'ai jamais eu mal à l'estomac. En revanche, je me suis collé du ulcère avec un stress intense, et ça empêche de digérer parce que vous avez un cancer de l'estomac. Un ulcère de l'estomac.
Alors, le lycopène, un anti-cancer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le lycopène, docteur Delabeau?
C'est un des constituants chimiques des légumes et des fruits rouges.
Il y en a beaucoup dans les tomates.
Il y en a beaucoup dans les tomates, il y en a dans les carottes, il y en a dans les betteraves, il y en a dans les fruits rouges aussi. Il y en a principalement dans les légumes, mais aussi dans les fruits. Alors, le lycopène, c'est bien, mais c'est comme on a dit aussi que la vitamine E était extrêmement utile pour le contre le cancer, la vitamine A aussi, la vitamine D aussi. En fait, le panel des vitamines que nous devons avoir tous les jours est extrêmement important. Attention cependant à ne pas vous gaver de l'un ou l'autre de l'une ou l'autre de ces vitamines. Ça peut être dangereux. L'hypervitaminose D, c'est dangereux. L'hypervitaminose A, ça a tué des chercheurs américains qui étaient allés sur le, comment dirais-je, l'autre côté, tu sais, pas le pôle, l'autre. Au bout, en dessous.
L'autre pôle.
L'autre pôle. Bon, allez, vous réjouissez pas trop vite, malheureusement, à l'idée que manger des tomates, des betteraves, des carottes ou aliments riches en lycopène va vous protéger du cancer. Si vous fumez en même temps ou si vous buvez, ça vous protégera pas. D'autant plus que certaines gens comme moi ne peuvent manger ces aliments en grosse quantité sans avoir terriblement mal à l'intestin, justement à cause du lycopène, asservé en trop grosse quantité pour nous. Tout comme on a vanté les qualités du thé vert et autres végétaux soi-disant anticancéreux sans jamais en avoir réellement la preuve, tout comme on sait que les vitamines, un apport en vitamines liposolubles, celles qui fondent dans le gras, sont extrêmement utiles pour la santé, mais arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça, contentez-vous de manger correctement, ne vous ruez pas sur certains aliments particuliers en mangeant plus que ça parce que vous allez vous déséquilibrer complètement, et beaucoup de grosses quantités de ces aliments risqueraient de vous faire beaucoup plus de mal que de bien.
Vendredi, éviter ou réduire les risques d'Alzheimer.
Oui. Alors, un journaliste explique comment réduire les risques de démence sénile en continuant à faire travailler le plus possible son intelligence. D'accord, c'est tout à fait vrai. Mais ça, c'est pour la démence sénile, c'est-à-dire pour le vieillissement cérébral.
C'est pas la même chose que l'Alzheimer.
L'Alzheimer, ouais. C'est une maladie. Ça n'est pas une sénescence, un vieillissement physiologique du cerveau. On peut réduire le vieillissement de son cerveau, c'est tout à fait vrai, en le faisant travailler correctement, parce qu'on dépense de l'énergie, on oblige le corps à fabriquer de la sérotonine, enfin on oblige le corps et l'esprit à rester bien. Mais malheureusement, j'ai connu des gens extrêmement intelligents et très actifs sur le plan intellectuel qui ont quand même fait des Alzheimer parce que c'est une maladie. C'est pas une démence, c'est la perte définitive et meurtrière de toutes les fonctions cognitives en raison d'une maladie dont on pense maintenant, j'ai lu ça sur la presse anglaise ou américaine au milieu d'année dernière.
Mais c'est irréversible, c'est ça que
c'est
faut dire.
Totalement irréversible, c'est d'origine infectieuse et vraisemblablement de nature ultra-virale. Alors ultra-virale parce que figure-toi qu'on a découvert qu'il existe des organismes encore plus petits que les virus qui peuvent être responsables de certaines maladies, notamment l'Alzheimer, qu'on n'a pas encore réussi à classifier réellement.
Oui.
Bon, ne vous faites pas peur inutilement, l'Alzheimer n'est quand même pas très fréquent. Et surtout, on n'en décrit aucun signe chez les peuples mangeurs de viande et physiquement actifs. Alors, voilà une bonne nouvelle pour ceux qui mangent chrono dedans.
Et puis, samedi, on termine votre semaine, docteur Delabeau, avec des saignements des gencives et des dents déchaussées.
Oui, alors, ça m'a pas fait rire parce que c'est pas marrant d'avoir les dents qui se déchaussent.
Non.
Mais ce qui m'a fait marrer, parce qu'en fait, on donne un tas de solutions. Curieusement, l'article parle abondamment des soins dentaires, notamment le détartrage. Ça, c'est intéressant et c'est utile. Mais on oublie le geste le plus important qui sera tout simplement de prendre de la vitamine C à raison de 500 mg 3 fois par jour en dose d'attaque, puis une dose tous les matins. Je vous signale que mon fils, qui est nutritionniste, vous le savez, a fait sa thèse sur le cas de scorbut parce qu'on ne voyait plus jamais de scorbut dans la civilisation et on recommence à en voir parce que les gens mangent de plus en plus de travers. Cela est la principale cause de saignement des gencives et du déchaussement des dents. C'est tout simplement un déficit en vitamine C. Il suffira donc que vous en mangiez suffisamment et que vous en croquiez tous les matins pour pas risquer un scorbut par déficit majeur. Attention, si vous prenez de la vitamine C loin des repas, elle va être, vous allez l'éliminer aussi vite que vous l'aurez bu.
Parce que ça sert à rien.
Ouais. Il vaut mieux la prendre en mangeant. Et il vaut encore mieux la prendre dans les aliments et les légumes. Attention, la cuisson détruit la vitamine C. Donc, ce sont les légumes crus qu'il faut manger. Ou les fruits crus.
Mais d'où l'intérêt d'avoir des dents en bonne santé?
Parce que si vous mangez, ça met les dents en bonne santé.
Oui, si vous mangez des légumes crus.
Alors, même si, étant très âgé, vous n'avez plus de dents, que vous avez des dentiers, méfiez-vous, il faut protéger quand même ses gencives, parce que ça n'est pas les dents que ça protège le scorbut, ce sont les gencives. Mmh. Quand les dents se déchaussent, c'est parce qu'on a du scorbut. Et malheureusement, à l'époque où j'étais jeune médecin, je suis certain, et je ne savais pas à l'époque, on ne m'avait pas bien appris ça, et je regrette, parce que je suis certain qu'il y avait des gens qui auraient pu avoir des bien meilleures gencives, donc des meilleures prothèses dentaires, parce que la gencive aurait été de meilleure qualité.
C'était les maladies qu'on avait sur le bateau avant.
Oui, bah parce qu'il n'y a pas de fruits frais. Ouais,
les scorbuts.
Oui.
Docteur Delabo, on change d'horaire.
Quel est le premier fruit qu'on a utilisé comme... le premier légume qu'on a utilisé pour combattre le scorbut.
La pomme de terre.
Oui, exact. Et qui a fait ça?
Scorbut.
Non.
Monsieur Parmentier.
Non.
Je sais pas, alors.
Christophe Colomb.
J'avais déjà la réponse sur la patate.
Si c'est pas Christophe Colomb, c'est un Espagnol ou un Portugais.
Mais alors pourquoi, justement, expliquez le...
Parce qu'il y a la vitamine C dans la pomme de terre crue, et la pomme de terre crue se conserve beaucoup plus longtemps que les fruits. Un fruit, ça pourrit très vite, alors que la pomme de terre crue se conservait. Il n'y a pas de réfrigérateur à l'époque.
Ouais, mais à ce qui paraît, c'est très mauvais de manger des pommes de terre crues.
Non, mais épluchées.
Mais on peut manger des pommes de terre.
Ah, ça peut se faire, c'est dégueulasse, mais on peut.
C'est dégueulasse.
N'empêche que ces marins n'avaient plus le scorbut.
C'est marrant, parce que vous voyez, la pomme de terre est un légume qui n'a pas la réputation d'être riche en vitamine C.
Parce qu'on le fait cuire, parce qu'on ne la mange pas crue. Or, la cuisson détruit la vitamine C. Donc, à partir du moment où ça a été cuit, il n'y a plus de vitamine C.
Bon,
donc, quand on vous dit, mangez tel aliment, il est riche en vitamine C, puis qu'après on vous donne des recettes où il est cuit, ça me fait doucement rigoler, parce que c'est souvent...
tout est dans l'art de cuire les aliments.
C'est surtout, tout est dans l'art d'avoir des connaissances réelles et de ne pas raconter n'importe quoi.
Docteur Delabo, on change d'heure ce week-end. Nous allons dormir une heure de plus.
Oui.
Bon, mais alors après, on va être dans le noir un peu plus longtemps. Est-ce qu'il y a un moyen, par l'alimentation, de combattre les effets? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont des horaires très réguliers, par exemple, les gens qui se lèvent très tôt le matin, par exemple, ils ont quand même une semaine ou deux de flottement.
Ben non, pas pour l'hiver, c'est l'été que c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile de passer à l'horaire d'été, de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver que l'inverse, Philippe.
Alors, docteur Delabo, je vais prendre un exemple. Il existe des gens, dont je fais partie, qui n'ont pas besoin de réveil, qui se réveillent tout à fait naturellement à la même heure tous les matins.
Ouais,
et quand quand on change d'heure, le problème c'est qu'on est dans les choux pendant un moment.
Non, ça dépend des gens. Moi, au bout de deux jours, ça y est, même pas. Parce qu'il faut se coucher simplement une heure plus tôt, tu te réveilles. C'est tout. Oui. Ce qu'il faut. Là, le problème. Oui. Alors, ce que vient de dire Philippe est très intéressant, parce que il est, en l'occurrence, justement, il questionne aussi, et c'est très bien. En fait, tout dépend d'une. D'abord, il faut avoir l'esprit ouvert, l'esprit décontracté. Ah, il va se passer une heure de différence. On s'en fout.
La seule chose,
c'est que vous devez vous coucher plus tôt. Ne vous couchez pas à 11h du soir quand l'horaire a été décalé. Il faut absolument que vous vous couchiez un peu plus tôt. Et là, vous allez très très vite retrouver exactement le même rythme et ça va aller tout seul. Donc c'est très simple.
Enfin, là, on dort une heure plus tôt en fait.
Il faut, si tu veux...
Là, on gagne une heure.
On gagne une heure. Voilà. Donc l'hiver est relativement facile. C'est en été que ce sera plus difficile. On en reparlera au printemps. Parce que c'est au printemps que vous aurez beaucoup plus de mal. Là, en fait, nous sommes plus proches de la nature en hiver que nous ne le sommes en été. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut dire. Nous sommes d'ailleurs le seul pays en Europe, je crois, qui fait ça. C'est pas forcément une bonne idée. Alors, ça dépend un petit peu aussi dans quel pays vous vivez, parce que plus vous êtes au nord, plus ça modifie les problèmes, plus ça complique tout. Alors que l'idéal, c'est de changer d'heure à l'équateur, là, il n'y a pas de problème. Tu peux changer d'heure hiver ou été, ça ne changera rien du tout. Ça va être quasiment identique. Puisque tu sais que les heures de jour et de nuit sont pratiquement les mêmes en été et en hiver. Donc, que tu avances d'une heure ou pas, ça change rien. De toute façon, ça n'aurait aucun intérêt de changer les heures dans des pays tropicaux ou subtropicaux. Parce que c'est pour faire... Pourquoi on fait l'heure d'été et l'heure d'hiver, mes enfants? Pourquoi?
C'était à l'origine, c'était pour faire des économies d'énergie.
C'est toujours pour faire des économies d'énergie. C'est pas à l'origine, c'est fait pour faire des économies d'énergie. Ça reste à prouver que c'est vraiment une économie d'énergie. Mais en principe, c'est pour ça que ça a été créé. Ceci posé, ça donne une économie d'énergie, mais les gens un peu sensibles, comme tu l'es, Philippe, ou un peu fragiles, ou qui ont bien établi leur rythme personnel et qui l'ont bien établi depuis des années, ça les perturbe terriblement. Quels sont les gens que ça ne perturbe pas? Ceux qui font les 3-8, ils s'en foutent.
Bah oui, ils sont toujours en décalage horaire.
Exactement, ils décalent tout le temps, alors ils n'en ont rien à foutre.
C'est douloureux pour l'organisme. Hein.
Ceux qui, comme moi, ceux qui, comme moi, ont fait un travail où ils ont vécu n'importe où, quand on est interne en médecine, on n'a plus d'heure, c'est fini, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, on peut vous appeler n'importe quand, à n'importe quelle heure. Pendant 3, 4, 5, 6 ans, j'ai appris à vivre complètement à contrario. J'ai fait également des gardes en médecine. Quand on est de garde et qu'on est dérangé toutes les nuits, il faut s'adapter à tout. Donc, le changement d'heure, franchement, nous faisons partie de la rare catégorie de gens que ça ne gêne pas vraiment. Mais c'est vrai que plus on a un rituel, qu'on a façonné son rituel de veille et de sommeil, plus c'est difficile parce que on va impacter 6 mois, puisque c'est pendant 6 mois, même plus que ça, c'est 9 mois. Ça dure combien de temps les horaires d'hiver? C'est 6 mois ou c'est 4 mois? Je m'en rappelle plus.
Ah non, c'est plus long que ça.
C'est 6 mois.
Ah oui, 6 mois.
C'est la moitié de l'année. Donc pendant 6 mois, t'as vécu d'une certaine manière. Il va falloir que les 10 autres. Alors, je vous rassure, progressivement, l'organisme s'habitue. Sauf si on fait sa tête de Mao et que dans sa tête, on n'accepte pas le fait que ça va changer et qu'on va s'y habituer. Donc, si vous restez décontracté, votre cerveau a impacté depuis des années le fait que tous les 6 mois, il change, donc il va s'habituer de plus en plus facilement. Alors, pas de panique, mes enfants. C'est pour les petits, en revanche, que ça peut être très ennuyeux.
Vous répondrez à cette question essentielle que le monde entier se pose dans un instant, docteur Delabeau. À combien de yaourts par jour avons-nous droit? Et si vous avez des questions à poser à l'affreux docteur Delabeau, 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Alain Delabeau, les gens croient peut-être à tort, docteur Delabeau, que vous interdisez les produits laitiers.
Ah non, je les interdis pas, bien sûr que non. J'interdis les produits laitiers inutiles ou dangereux. Mais j'interdis pas les produits laitiers.
Bon, alors, je vais poser une question tout à l'heure. À combien de yaourts a-t-on droit par jour?
Oui, ben ça m'a beaucoup fait rigoler, zéro. Parce que le yaourt est un aliment extrêmement acide. Alors, les yaourts allégés, d'ailleurs, on a inventé les perles de lait en disant « Ah, c'est merveilleux !» D'accord, mais c'est moins acide, c'est vrai, mais il n'empêche que c'est quand même du yaourt. Donc, le yaourt est une invention qui n'est pas une invention utile pour l'organisme humain, et elle peut même être dangereuse pour des gens. Quelqu'un qui a une maladie de Crohn, s'il bouffe du yaourt, ça va pas lui faire de bien. Hein. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même un aliment qui n'est pas bien toléré par l'intestin, et qui, si on l'exagère, va finir par provoquer des douleurs ou des désordres intestinaux.
Alors,
entre autres, vous
dites que c'est pas bien toléré par l'intestin, mais longtemps la communication des gens qui font des yaourts, c'est justement parce que ça nous faisait du bien à l'intestin.
Oui, mais
et ça nous apportait des bonnes bactéries.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faudrait peut-être pas que tu confondes le commerce, l'industrie, le commerce et la médecine, mon petit chéri. Ce sont deux, trois choses qui sont totalement incompatibles. Oui, tu vas me dire, il y a des médecins qui en vendent les mérites, mais ils ont été un petit peu payés aussi. Hein.
Bon, les yaourts, ça fait grossir? Un petit yaourt.
C'est
genre,
pas seulement...
Je prends un pauvre Danone, par exemple, nature.
Bah, un Danone, un petit
sans
Danone.
Sans sucre, sans
un
rien.
Un petit yaourt nature, il faut bien d'abord te dire que ça fait 125 grammes. Et dans ces 125 grammes, il y a à peine 20 grammes d'utile. Qu'est-ce que tu vas faire des 105 grammes qui restent? Bah, tu vas pas tout pisser, tu vas pas tout éliminer, tu vas forcément en garder une partie. Et comme dans ces yaourts, il y a encore des traces de lactose, on dit que le yaourt ne contient plus de lactose. C'est faux, il y en a encore. Et ce yaourt est un aliment qui est beaucoup trop léger en densité par rapport à son utilité. Quand on mange 100 grammes de fromage, on mange l'équivalent, l'apport nutritionnel égal à 500 grammes, pardon, 4 fois 125, oui, 500 grammes de yaourt. Alors, c'est pas du tout la même chose. Si on mange, en revanche, manger du fromage et le manger au bon moment de la journée est un véritable aliment, médicament pour la santé. Ça n'est pas seulement par plaisir, c'est par nécessité. Si je mange énormément de fromage le matin, c'est parce que j'ai une hypercholestérolémie génétique et que je la contrôle uniquement grâce à ça.
Alors, quels sont les produits laitiers que vous interdisez, docteur Delabeau?
Tous les produits laitiers contenant du lactose ou des traces de lactose et ou des facteurs de croissance. Alors, le lait, bien sûr, a priori, a fortiori, le lait. Alors, le lait délactosé, c'est déjà un pas en avant, mais il y a encore du lactose dans le lait délactosé, parce qu'on dit lait délactosé, puis en dessous, en toute petite lettre, il en reste un pourcentage.
Comme quoi, ils se sont adaptés, hein?
Ouais, bah hein? Bien sûr, bah ils commencent à se rendre compte que ça va tôt ou tard, ça va péter.
Le lactose, c'est quoi, pour qu'on explique aux gens?
Le lactose, c'est un quadruple sucre. C'est ce qui
mais
fait
ça
grand.
Veut dire quoi, un quadruple sucre?
Bah, il se transforme dans le corps humain. Une molécule de lactose va se transformer en 4 fois plus de glucose. Et c'est l'aliment de base des bébés. C'est ça qui les rend tout dodus, tout gros, tout joufflus. Un bébé, quand il est sevré, eh bien, il mincit à toute allure. C'est extraordinaire. Tout en continuant à prendre du poids et à grandir. Mmh. Mais il va mincir à toute allure parce qu'il ne prend plus d'aliments contenant du lactose en grosse quantité.
Mmh. Bien. Alors, donc, vous interdisez les yaourts. Tous les produits alors, qui contiennent du lactose.
Je vais te dire quelque chose. J'ai pris pour principe depuis pas mal d'années, je n'interdis pas. Je dis, ne le faites pas. Si vous le faites, je ne réponds de rien, je ne peux pas vous aider. Mmh. C'est tout. Parce que ce n'est pas la peine de venir me dire qu'on fait de la chrononutrition en mangeant des yaourts. On voit sur Internet, je viens d'aligner 2 sites qui faisaient ça. Il faut savoir que, et ça me fait très plaisir, le gendarme de YouTube est excellent. Quand vraiment on exagère, poum, ça tombe et les gens n'ont plus le droit de raconter des bêtises.
Donc, pas de yaourt.
Pas de yaourt, pas de... Alors, les yaourts, les petits suisses, l'Activia, l'Actimel, le... Je sais plus...
Le fromage blanc.
Le fromage blanc, les...
Les faisselles.
Et les fromages frais.
Les faisselles.
Bah oui, malheureusement. Ou alors, il faudrait qu'ils soient tellement pressés qu'il n'y a absolument plus de petits laits dedans. Pas de faisselles.
Bon. Par quoi est-ce qu'on remplace, donc, utilement les produits laitiers?
Non, on ne remplace pas les produits laitiers. On a des produits laitiers qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas, et on ne peut pas remplacer
les produits laitiers utiles de Labo.
On garde le fromage, on garde la crème et on garde le beurre. Mais le beurre, c'est plutôt pour le plaisir, parce que ça n'est pas un aliment parfait, loin de là, puisque ça contient de l'acide butyrique. C'est un aliment qui est en général mal toléré par les gens ayant des rhumatismes.
Donc,
l'essentiel, c'est fromage et crème. Ce sont les 2 composants du lait qui contiennent énormément de calcium et qui sont donc extrêmement utiles toute la vie et particulièrement pour les femmes, puisque les femmes ont plus besoin que les hommes d'un apport en calcium très régulier.
Bon, on peut manger du fromage toute la journée alors?
Non, que le matin. Eh oui. On peut manger de la crème à la rigueur midi et éventuellement dans une sauce un petit peu le soir, parce que la crème, on va l'utiliser de façon raisonnable, sauf évidemment certaines gens qui croient qu'il faut mettre un pot de crème entier dans des haricots, auquel cas c'est un peu la catastrophe. Mais en général, l'essentiel c'est d'utiliser le fromage pour la santé et le bien-être, puisque c'est quand même très très bon de manger du fromage, c'est délicieux. Il y a des centaines de fromages en France qui sont excellents. Faites-vous plaisir avec tous les fromages que vous voulez. Et attention, il y a quand même des restrictions. Si vous avez de l'hypertension, certains fromages sont beaucoup plus salés que d'autres. Il faut les éviter si vous avez de l'hypertension. Mais si vous avez du cholestérol, plus vous en mangerez le matin, plus vous protégerez votre corps d'une hypercholestérolémie. C'est ce que je fais tous les matins depuis très longtemps.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe si on mange du fromage le soir?
Eh bien, on augmente le cholestérol au lieu de diminuer et on gêne la digestion.
Mais pourquoi on l'augmente le soir et pas le matin? C'est ça qu'il faut expliquer.
Pourquoi
on l'augmente le soir et pas le matin? Pourquoi si on mange du fromage le soir, on augmente le cholestérol et pas le matin?
Parce que le matin, le fromage a cette vertu particulière que le professeur Rapin a découvert. Mon ami Rapin, quand je lui ai dit il faut manger du fromage le matin, m'a dit mais t'es fou, pourquoi? Et puis, je lui ai dit, ben, vérifie, et il s'est aperçu qu'en fait, il y a un enzyme extrêmement efficace, la HMG coenzyme en réductase, que fabrique le corps s'il n'a pas à sa disposition, dans l'heure du lever, suffisamment de corps gras saturé, et c'est le fromage qui les amène.
D'accord. Donc, c'est pour ça que le matin, manger du fromage ne fait pas monter le taux de cholestérol.
Non, il fait baisser.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Il fait baisser.
Donc, on ne peut pas le manger. Est-ce que l'heure est importante ou c'est simplement...
Le moment est important. Alors, le moment est important, c'est l'heure du lever, parce que votre corps fonctionne sur le rythme du cortisol, qui est l'hormone maîtresse de la nutrition, et ce cortisol va agir pendant la nuit, à la fin de la nuit, il va arrêter de se produire, et c'est là qu'il va falloir se dépêcher de prendre du fromage avant que la HMG coenzymase fasse son boulot de faire fabriquer du cholestérol.
HMG
coenzyme réductase.
Très bien.
Il faut le faire. Hein.
Ouais, non, faudra le répéter dans la journée. Docteur Delabo répond à vos questions dans un instant. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.
Avec le docteur Delabo qui répond à vos questions dans un instant au 01 53 48 3000. Beaucoup de gens se demandent où il est où le sucre dans les petits yaourts, dans les Actimel, puisqu'il y a écrit sur l'emballage que c'est pas sucré.
L'Actimel, si.
C'est sucré, non?
Bah oui.
Non, vous avez l'Actimel nature.
Actimel nature, il est aussi nature que moi je suis archevêque, hein, ton Actimel. Non, c'est faut être sérieux. Ce sont des aliments, alors la plupart, en plus, ce sont des aliments qu'on va sucrer, pour ainsi dire. Oui. Ce sont des aliments qu'on propose avec des sucres à l'intérieur. C'est une catastrophe intellectuelle. C'est, médicalement, ça me fait hurler, parce que c'est pas comme ça qu'on doit manger. On ne mange pas des aliments associant du gras, du lait et des fruits. C'est à digérer, c'est une catastrophe. On peut pas équilibrer le corps. Alors, certaines gens me disent, mais je prends des yaourts, je prends ci, je prends ça, ça va bien. Oui, d'accord. Mais en général, si on interroge sérieusement ces gens-là, ce sont des gens qui sont soit très actifs, voire même hyperactifs, soit actifs et sportifs. Quand je fais du sport, ne sachant pas du tout, à l'époque, j'étais jeune étudiant en médecine, je faisais du sport à un excellent niveau, puisque je faisais 2 heures de judo tous les soirs. Croyez-moi qu'au bout de 2 heures, je buvais dans la journée 2 litres de lait. Ça allait très bien. Le jour où j'ai arrêté le judo, parce que j'avais plus le temps, les études de médecine, c'est pas très compatible avec un sport de haut niveau, donc je me suis arrêté de faire du sport, et j'ai très vite arrêté de boire du lait, parce que je m'étais ramassé 4 kilos en l'espace d'un mois. Je gonflais comme une baleine. Heureusement, je me suis rendu compte que c'était ma façon de manger pendant le sport, et c'est ça qui est dramatique avec les grands sportifs, c'est qu'ils peuvent manger n'importe quoi quand ils font leur saison, et en dehors de la saison, ils deviennent monstrueux. Regarde tous les anciens grands sportifs, comment ils viennent.
Alors, on va accueillir Ali, qui nous appelle de Paris. Ali, bienvenue.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour Ali. Le docteur Delabo vous écoute.
Oui, bonjour docteur. C'est pour... j'ai une question, en fait. C'est pour... j'arrive pas à grossir. En fait, c'est pour savoir comment pour prendre du poids sans avoir des problèmes de santé.
Bonjour
c'est
Ali.
C'est une super question, ça.
Bonjour Ali. Alors voilà une question intéressante.
Parce que juste une information, en fait, comme je fais beaucoup de foot, je joue 3 fois par semaine au foot.
Oui.
J'élimine beaucoup. Et là, je fais 1m87 pour 73 kilos.
Okay. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Les très grands joueurs de tennis qui font des efforts assez costauds sont en général très très minces par rapport à leur poids, à leur hauteur. Hein. Un team comme Federer, je crois qu'il doit peser au moins 10 kilos de moins que sa hauteur. Donc c'est pas une mauvaise santé, mais ça doit tenir. Si vous voulez, le problème avec le foot, c'est que vous risquez. Vous n'avez pas de claquage, ça va. Vous n'avez jamais fait de claquage.
Non.
Alors touchez du bois. Le matin, vous mangez quoi le matin, Ali?
Là, pour tout ce qui est nourriture, moi j'ai pas de. Je mange un peu tout.
Oui, mais vous mangez quoi le matin?
Le matin, je mange pas en général.
Ah ouais, alors, ça commence bien.
Ça, c'est la première raison pour laquelle vous n'arrivez pas à grossir.
Moi, tout ce qui est manger, deux fois je me lève le soir, deux fois je mange pas du tout. J'ai pas d'horaire de nourriture.
Ça n'a aucune importance. Alors, écoutez bien. Première chose, apprenez à manger dans l'heure du lever. Je me fiche éperdument de l'heure à laquelle vous vous levez, mais vous devez manger des aliments riches en gras saturés dans l'heure du lever. Essentiellement du fromage, avec du pain et de l'huile d'olive sur le pain. Et là, ça va aller tout seul. Et pour 1m87, et étant donné que vous êtes footballeur, et même en dehors des saisons, je pense que vous continuez à faire des entraînements et à faire de l'exercice régulier, je suppose.
Oui, je vais à la salle et je joue au foot les deux en même temps.
D'accord. Donc, vous pouvez manger toute l'année pour la taille que vous faites, 1m87, vous m'avez dit, je crois.
Oui, ouais. Voilà.
Bon, il vous faut au moins 160 grammes de fromage avec 80 grammes de pain. Et le jour où vous allez faire une compète, si c'est un match là, dans l'après-midi ou dans la fin de matinée ou dans le cours de la matinée, vous pouvez même prendre 200 grammes de fromage et 100 grammes de pain avec de l'huile d'olive. Il vaut mieux que vous preniez de l'huile d'olive, c'est bien meilleur pour les articulations. J'en parlais tout à l'heure pour les gens qui ont du rhumatisme.
Là, j'en mange presque tous les jours de l'huile d'olive.
C'est très bien. Alors, c'est parfait. C'est pour ça que vous n'avez pas de claquage. Vous la mettez sur le pain le matin, c'est excellent. Et ouais, vous prenez carrément une demi-baguette avec un camembert entier et vous me collez là-dessus autant d'huile que vous voulez et vous mettez du fromage par-dessus. Vous pouvez faire fondre votre fromage, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Le tout, c'est que vous ayez les jours d'entraînement long ou de match. D'ailleurs, il y a quelques fois, on se dépense plus pendant les entraînements que pendant les matchs. Ça dépend du poste où vous êtes. Et vous allez donc carrément me prendre 200 grammes de fromage, 100 grammes de pain, et puis autant d'huile que vous voudrez pour étaler sur votre pain et me mettre sous le fromage. D'accord ?
D'accord.
Et puis,
d'accord.
Alors, évidemment, vous pouvez le couper en quatre parts pour pouvoir le griller, parce que c'est bien plus agréable d'avoir du pain grillé.
C'est quoi comme fromage que je dois prendre ?
Celui que vous voulez. Celui que vous voulez, pourvu que ça soit du vrai fromage, que ça soit du fromage gras, que ça soit du fromage bien. Ça peut être aussi bien du camembert, du coulommier, du rouy, du maroilles, de la boulette d'avenne, du cousteron, du caprice des dieux, je m'en fiche.
Ali vous demande la vache qui rit.
La vache qui rit, c'est... Oui, comme vous faites du sport, ça ira. Mais c'est très salé, la vache qui rit, donc c'est pas recommandé forcément à tout le monde. Parce que ce sont des fromages très salés, c'est des fromages d'enfants.
D'accord.
Donc vous pouvez,
camembert, alors.
Mais attention, 200 grammes de vache qui rit,
camembert.
Le camembert, c'est plus agréable, ou le coulommier, si vous voulez. C'est la même chose, ou le brie, ou le pont-l'évêque, enfin tous ces fromages-là. Faites-vous plaisir. De toute façon, prenez les fromages que vous aimez. Vous ne devez pas vous coller au régime. Vous devez adopter une alimentation qui est l'alimentation la mieux équilibrée qu'on puisse trouver, et non pas une alimentation pour maigrir, ou pour ci, ou pour ça, ou pour grossir. Mangez correctement, votre corps redeviendra parfait.
Le problème, c'est que moi, je mange de tout. C'est-à-dire, je mange du salé, sucré, même s'il n'y a pas de sel, je mange. J'ai pas de problème de...
Alors, apprenez...
Tout ce qu'il y a à manger, je mange.
Oui, mais... Alors, vous pouvez manger n'importe quoi parce que vous faites des efforts tout le temps. Mais si vous voulez avoir un corps qui fonctionne parfaitement, organisez votre alimentation parce que elle est désordonnée. Et une alimentation désordonnée va donner, dans votre cas, ça donne un poids qui est inférieur, et je ne peux pas voir votre morphotype, mais il est possible qu'on constate des anomalies dans votre silhouette en raison de ce que vous mangez.
Mmh.
Ouais. Donc, si vous voulez, pour pouvoir vous donner un diagnostic exact sur le point où vous êtes, il faudrait que je vous mesure, ou qu'on vous mesure, que je connaisse vos mensurations. Ça me permettrait de savoir exactement s'il y a beaucoup de choses à corriger, et quelles sont les choses à corriger.
Je fais 1m87 pour 73 kilos.
Mais oui, je sais bien. Vous êtes un petit peu en dessous, et c'est pour ça que, et c'est lié en partie dans votre cas au fait que vous mangez pas le matin. Parce que vous puisez dans vos réserves de protéines, il est possible que vous ayez un visage très maigre. Ça ne serait pas étonnant du tout si vous avez un visage très maigre, que vous avez, d'ailleurs des cuisses extrêmement développées parce que vous faites du foot, mais vous pourrez très bien avoir des bras beaucoup moins développés que les cuisses, qui est souvent, c'est fréquent chez les footballeurs.
Alice reconnaît pas beaucoup.
Comment ?
Vous reconnaissez dans le portrait que fait le docteur Delabo ou pas du tout ?
Si, c'est ça. J'ai le visage très maigre, les cuisses mollets un peu développées, je suis maigre des bras.
Voilà,
bon donc voilà.
Il n'y a plus à chercher. Alors, je vais vous expliquer cette
raison. Non, docteur Delabo, on va marquer une pause.
J'en ai pour deux secondes.
Voilà, deux secondes.
Deux secondes. Vous mettez dans les épaules et dans les bras ce que vous mangez le matin. Donc vous avez tout compris là.
Huile d'olive et fromage et pain.
Fromage, pain, huile d'olive, vous allez prendre des épaules, vous allez prendre des bras, vous allez muscler le haut de votre corps.
Ok, d'accord.
Mais il n'y a pas que ça, hein.
Bon, on marque une pause parce que on est à la bourre, docteur Delabo. Ali, vous restez avec nous, beaucoup d'auditeurs vous attendent. 01 53 48 3000 si vous voulez poser une question au doc.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Alain Delabo, inventeur de la chrononutrition. Vous posez vos questions au doc au 01 53 48 3000. Je vous rappelle que maintenant, Beurre FM, c'est la chaîne YouTube. Vous avez des vidéos qui reprennent tout ce que disent les invités. Donc, vous pouvez consulter quand vous le souhaitez. Il y a un nouveau site internet, www.beurrefm.net. Nadia est avec nous. Bienvenue, Nadia.
Oui, bonjour.
Bonjour, Nadia.
Bonjour à vous.
Bonjour, Nadia.
Bonjour. Donc voilà, je vous appelle. Donc moi, je fais la chrononutrition du docteur Delabo. J'ai acheté des livres, j'ai acheté ces livres que j'ai lus, très intéressants. Et j'avais des petites questions à lui poser, en fait, peut-être des questions qui sont bêtes. Enfin, je ne sais pas, mais voilà.
Il n'y a pas de questions bêtes, Nadia.
D'accord. Bon, comme j'arrive pas à trouver les réponses dans les livres, Donc je voulais savoir, donc, au niveau des fromages du matin, donc, je crois qu'il avait déjà répondu, mais j'ai dû zapper quelque chose. Est-ce qu'on a droit au kiri, au boursin, des choses comme ça?
Alors attention, attention. Oui. Il faut que les fromages ne contiennent pas de lactose ni de petit lait. Donc le kiri, c'est un fromage frais. Tous les fromages frais et les fromages blancs sont proscrits. Donc ne pas prendre de fromage blanc, ne pas prendre de fromage frais. Le petit suisse par exemple, le kiri, le chavroux, le chèvre frais, tout ça, le boursin, ce sont des fromages frais. Ce sont des fromages qui contiennent encore des facteurs de croissance, donc il faut les éviter absolument.
D'accord, parce que moi je commence très tôt le matin.
Oui.
Je ne vous cache pas que le matin, mon estomac, il est pas, il démarre pas comme moi.
Alors, vous commencez à quelle heure? Vous vous levez à quelle heure?
À 5h, 5h15.
Bon. Vous déjeunez le midi à quelle heure?
Ben, je suis décalée en fait. Donc là, par exemple, je suis en train de déjeuner, là, il est 13h.
D'accord. Donc 5h, 13h, ça fait 8h d'écart. Il faut pas se contenter d'un repas. Il faut avoir une pause avec une protéine au milieu. Et pour avoir un résultat efficace, le mieux c'est de prendre une barre de protéines chrono parce que c'est du tryptophane, c'est de l'extrait de fromage et ça va vous permettre de pouvoir tenir pendant 8h sans avoir besoin de vous goinfrer. Alors, suivant la personnalité des gens, parce que ça c'est très variable et c'est à vous de justement, c'est ce que je suis en train d'écrire dans mon nouveau bouquin, c'est comment me conformer moi à votre façon de vivre et non pas essayer de vous faire entrer dans la mienne. Ou vous n'avez pas de faim quand vous vous levez, et c'est dans chez beaucoup de gens, et dans ce cas-là, je vous conseille de prendre une barre de chronoprotéines au lever parce que ça va vous permettre de tenir le coup pendant plusieurs heures, et vous aurez bien, si vous avez la chance d'avoir une pause dans la matinée, parce que quelquefois c'est pas le cas, vous pourrez prendre votre petit déjeuner à la pause.
Oui, moi, je peux faire ce que je veux. En fait, je suis dans ma voiture, donc...
Oui, alors, vous prenez votre... attention, le sandwich au volant, c'est interdit, hein.
Non, ah c'est bon. Pas ça, mais je mange pas de sandwich au volant, mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est que je peux m'attribuer à 10h une petite barre, personne ne va rien dire.
Alors,
dans la voiture.
Soit vous arrivez à manger suffisamment le matin, parce que vous mesurez combien en hauteur?
1m65.
Donc c'est au moins 90 grammes de fromage, puis avec une matinée longue comme ça, c'est même plutôt 100 grammes de fromage et 50 grammes de pain. Alors si vous emmenez votre petit déjeuner, il vaut mieux mettre du beurre sur le pain parce que l'huile d'olive, ça va
foutre
le camp partout.
Je mets de l'huile d'olive, mais c'est dans du cellophane, donc ça.
Ah, c'est bien, vous êtes une fille organisée, parce que sinon on en fout partout.
Je sais pas, mais bon, j'arrive à. Mais honnêtement, docteur, c'est très dur le matin, parce qu'il y a des fromages quand même qui sont. C'est bon, hein, mais c'est fort, et on a plus l'habitude.
Ah, ben choisissez ce que vous aimez. Choisissez, vous pouvez très bien.
D'accord.
Vous avez des fromages comme le Caprice des Dieux, c'est pas fort du tout.
Oui.
Vous avez le Coulommiers, le Brie, c'est pas fort du tout. Ça dépend de si vous l'avez laissé rancir ou pas. S'il est frais, le Brie frais, ça, c'est vraiment pas fort. Donc, faut choisir les fromages que vous aimez. Mais vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure des années, vous allez de plus en plus manger des fromages costauds.
D'accord.
Il y a une raison physiologique à ça, c'est que plus vous vieillissez, plus votre goût s'atténue. Donc, vous avez de plus en plus besoin que ça ait du goût.
Ça ait du goût, oui, c'est vrai. Je suis infirmière, je connais un peu aussi les...
Ah, bah alors, vous êtes au courant de tout ça, l'évolution.
Je sais qu'il y a du monde, donc juste rapidement. Tout à l'heure, vous disiez, on peut faire des sauces avec de la crème, avec des champignons pour agrémenter un peu les féculents.
Bien sûr.
Par exemple, si je veux de la purée, est-ce que je peux? Ce que vous avez dit, le lait, non.
C'est mieux de mettre de la crème dans la purée, mais si vous faites cuire du lait, que vous le faites cuire complètement et que vous le mettez dans la purée, vous avez modifié complètement la nature du lait. Vous allez donc avoir, c'est comme les fromages cuits, c'est pareil, il n'y a plus de lactose dedans parce qu'ils ont été transformés par la cuisson.
Donc les lasagnes et la purée, les hachis parmentiers, on peut à midi.
Oui, madame.
Mais il faut qu'il y ait plus, qu'il y ait plus de viande que de purée.
Voilà, bravo,
oui, bien
Philippe.
Sûr,
bien, Philippe. Et attention, alors, c'est un hachis chrono qu'il faut faire. Hein.
Oui. Si je mets un pain au chocolat, je peux, par exemple, à 4 heures. Par exemple, est-ce qu'à 4 heures, au lieu de manger des amandes, je peux manger un petit brownie, la moitié d'un brownie ou un
pain? Les brownies et tout ça, c'est quand c'est la fête. Hein. Alors là, si ça vous manque de manger des gâteaux et des machins comme ça, vous faites comme les enfants, une fois par semaine. Bon, on a droit à deux repas de fête. Et ben, une fois par semaine, vous vous lâchez sur un goûter crapuleux, comme j'appelle ça. Et vous allez manger tout
donc
ce que vous voulez. Oui.
D'accord. Et alors, par contre, et je laisserai l'antenne aux autres, vous parliez de la banane. Moi, j'essaie de faire un peu de sport, mais c'est souvent vers 13h, entre 13 et 14h. Et là, je mange juste avant, donc j'ai pas spécialement envie de manger une banane.
Non. Si vous mangez juste avant le sport, d'abord, il faut, ou juste avant, il y a peu de temps avant, parce que ça, c'est un peu dur pour l'estomac, ça, hein.
Non, quand je dis avant, c'est une heure ou...
Ah, bon, une heure, ça va aller. Alors, vous avez le choix.
J'ai pas envie de manger une banane, quoi.
Alors, non, c'est pas ça. De toute façon, avant le sport, c'est pas une banane. La banane, c'est plutôt à la fin du sport qu'on va la manger.
Ah, c'est à la fin. D'accord.
À la fin pour ce... Ben, tout simplement, si... Et ça ne se prend pas systématiquement, mais seulement si vous sentez que vous avez une hypoglycémie. Mais d'accord. L'idéal, c'est soit d'augmenter votre viande au déjeuner, et si vous ne pouvez pas l'augmenter, c'est tout simplement d'ajouter une barre chrono. Les barres chrono, elles sont faites pour pallier les aléas, si vous voulez. La barre chrono du matin, elle est utile.
C'est sur votre site? Est-ce qu'on peut les acheter en magasin? Est-ce qu'il y a un magasin où on peut les acheter, par exemple? C'est que sur Internet?
Pour l'instant, non. Il n'y a qu'un magasin en France. Il n'y en a qu'un seul. Et il n'y en a pas ailleurs. En revanche, vous les trouverez facilement sur le site biochrono.net.
D'accord. OK. Bon, ben, je vous remercie, docteur.
Je vous en prie. Bonne
et
journée.
Pas de pain au chocolat à 4 heures, si j'ai bien compris.
Si, c'est la fête.
C'est la fête. Ne négociez pas, Nadia. Hein?
Non, je ne négocie pas.
Gros
merci.
Bisous. À bientôt.
Au revoir, Nadia.
C'est Cilia qui est avec nous. Cilia, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Cilia.
Bonjour, docteur. Alors, en fait, moi, j'ai une petite question par rapport à ma fille qui a 3 ans. Donc, je l'ai allaitée jusqu'à 5 mois et demi. Et après, je lui ai donné du lait de croissance. Mais comme son père est dans le foot, il m'avait dit d'arrêter tout le laitage. Donc, c'est un peu ce que vous dites sur les laitages. Et du coup, maintenant, je lui donne du lait de soja.
Ah non, surtout pas. Alors ça, c'est une très très grosse erreur. Alors là, vous soulevez un d'accord. problème qui est dramatique. Le lait de soja n'est pas du lait. C'est un jus c'est un jus de légumineuse. Ça n'a rien à voir avec le lait.
Pareil pour d'accord. les laits d'amande et...
Il faut remplacer le lait par du fromage. Et il faut en donner matin et midi et autant que votre enfant en voudra. Mais surtout, alors oui. ça, c'est très bien que vous ayez posé la question, parce que ça me permet de mettre en garde toutes les mamans de France et d'ailleurs. Ne donnez jamais autre chose que du lait à votre enfant. Quand vous remplacez le lait, vous le remplacez par du fromage. Et aucun soi-disant lait de quoi que ce soit ne pourra compenser le manque de lait. Surtout, faites attention, c'est très, très dangereux. C'est comme ça qu'on arrive à des problèmes très importants de rachitisme. Et le d'accord. médecin se demande ce qui se passe souvent quand on voit un enfant qui peut être gros, hein, mais qui a les os très abîmés. Donc ça abîme terriblement les os des enfants. Jamais de lait de soja, jamais de lait d'amande, jamais de trucs comme ça. Le lait d'amande, c'est un truc sucré qu'on prend à la rupture de jeûne et qu'on prend au goûter. Le lait de soja, c'est pas du tout intéressant, surtout pour les garçons, parce que ça contient des oestrogènes, donc fichez-moi ça à la poubelle. Il va se retrouver avec des doudounes. Et c'est pas une blague, le pire. Donc, vous ne prenez jamais de trucs de lait. D'ailleurs, beaucoup de soi-disant lait ont été... On a interdit qu'on décrire le mot lait dessus. Mais je suis furieux de découvrir qu'on les a collés encore dans le rayon des laitages. C'est quand même une honte. Ce ne sont pas des laitages.
C'est que son père, il l'a mis au régime, on va dire, en lui mettant des... Que du lait de soja.
Surtout pas. Il a quel âge? Il a quel âge?
Ma fille a 3 ans.
Elle a 3 ans? Non, c'est pas. Ouais. Non, mais il faut pas faire ces trucs-là. Pourquoi il a fait ça à son père? Il faut pas faire ça.
Oh ben.
Non, mais c'est dangereux donc comme tout.
Il
hein.
donne que. Mais par exemple, les yaourts, tout en fait, au soja, que au soja.
Non, mon Dieu. Mais quelle ouais, idée. Où est-ce qu'il a ouais. pris cette idée-là?
Ah ben, faut lui demander. C'est le foot.
En tout cas,
Cilia, le docteur Delabeau vous a répondu, il faut remplacer le lait par du fromage.
Par du fromage, c'est pas difficile, c'est que vous le remplacez par du fromage le matin et le midi pour un enfant. Parce que jusqu'à la fin de la croissance, un enfant mangera du fromage le matin et le midi. Et autant qu'elle en voudra. J'ai une de mes petites filles qui a 3 ans, mangeait plus de 100 grammes de fromage le matin. Et elle est épaisse comme un clou.
Le lait de soja, c'est pas une bonne idée.
Non.
Et c'est pas du lait. Pareil pour le lait d'amande.
Mais c'est pas mieux pour papa, hein. Faut pas croire.
Bon, Cilia, j'espère que vous avez bien retenu ce que vous a dit le docteur Delabeau. Merci à vous tous d'avoir été avec nous demain. L'islam présent avec l'imam Abdelali Mamoun à 10h. Maître Serran de retour pour C'est tout droit à 11h. Et le chef, voilà, entre midi et 13h pour les exploits du chef. Passez une très belle journée sur Beurre FM.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h. Sur Beurre FM.